RCF.
L'université a vu le jour au XIIIe siècle en Europe. Elle naît de la transformation d'écoles souvent déjà existantes et crée de véritables communautés qui rassemblent des maîtres et des étudiants. De Bologne à Paris, en passant par Montpellier, Oxford ou Padoue, les universités au Moyen-Âge vont rayonner à travers toute l'Europe, former des milliers d'hommes dans diverses disciplines et diffuser un réel savoir. Bonjour Antoine Destemberg.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'université d'Artois et vous avez publié en 2015 « L'honneur des universitaires au Moyen-Âge ». C'est un livre qui est paru aux presses universitaires de France. L'université, le savoir, l'enseignement au Moyen-Âge, c'est quelque chose qui vous intéresse de manière particulière? C'est un sujet particulier?
Oui, c'est un sujet particulier. C'est un sujet qui est traité par les historiens depuis déjà un certain nombre de décennies, mais l'historiographie sur ces sujets a connu des inflexions assez notables. Alors qu'au XIXe siècle, on s'intéressait aux institutions universitaires, puis à l'histoire des idées, principalement. À partir du milieu du XXe siècle, on s'est intéressé à l'histoire sociale des étudiants et des maîtres, et ainsi observé une communauté en gestation, beaucoup plus que de faire une histoire des idées uniquement. Et à partir de ce moment-là, ce sont des institutions qui ont pris corps véritablement et qui débouchent donc sur une historiographie qui est maintenant renouvelée depuis cette époque-là.
Est-ce qu'on peut dater de manière précise la naissance, l'apparition de l'université médiévale ?
Non, on ne peut pas dater très précisément la naissance de l'université médiévale parce que, comme beaucoup d'institutions de cette époque, elles sont le résultat de transformations progressives dont on arrive à repérer quelques traces documentaires qui nous permettent de situer, je dirais pour les premières attestations dans les écrits, l'apparition de trois premières universités que sont Bologne, Paris et Oxford. Et cette apparition se fait progressivement entre les toutes dernières années du XIIe siècle et, je dirais, les deux premières décennies du XIIIe siècle. Les premières mentions du terme d'universitas, donc la notion juridique structurante pour ces communautés. Ces premières mentions apparaissent en 1208 à Paris, aux alentours de 1215 à Bologne, également à Oxford. Donc c'est à partir de ce moment-là où on peut véritablement parler d'université.
Vous avez dit qu'elles sont le résultat d'une transformation. On verra dans un instant la transformation de quoi. Mais d'abord, est-ce qu'il y a un contexte particulier qui explique que ce type de communauté et d'enseignement émerge?
Oui, alors il y a un contexte multiple, un contexte intellectuel d'abord. Depuis le milieu du XIe siècle, l'Église, qui a entamé une grande réforme, la réforme grégorienne, s'est dotée progressivement de structures scolaires qui sont destinées à former mieux ses clercs, à former mieux ses théologiens, de façon à avoir des élites intellectuelles qui soient capables de porter la réforme ecclésiastique. C'est une réforme qui s'appuie notamment sur le droit, sur un certain nombre de savoirs techniques, et on a besoin de gens compétents. Il y a également un contexte, je dirais, sociopolitique plus large, qui fait que le XIe et le XIIe siècle est une période qui voit une stabilisation des pouvoirs, notamment des pouvoirs princiers, royaux, tout à fait propice à une plus grande mobilité sociale, géographique des populations. Cette mobilité est absolument essentielle pour permettre la circulation de jeunes clercs qui donc se destinent à faire des études et quittent leur lieu d'origine pour aller dans ces centres urbains essentiellement où on enseigne. Donc, ce contexte est tout à fait essentiel. Et puis plus directement, il y a un contexte qui est le monde urbain. Jacques Le Goff, dans son livre « Les intellectuels au Moyen-Âge » en 1957, disait « Au début, il y eut la ville ». Et effectivement, ce contexte urbain est tout à fait essentiel parce que c'est un lieu de mélange des populations, un lieu de liberté plus grand. Et de fait, ce cadre urbain permet l'installation de populations nombreuses qui font profession d'autre chose que de la culture et de l'agriculture, ou simplement de prier ou de combattre, selon cette fameuse tripartition fonctionnelle de la société, ces trois ordres. Et là, on a une catégorie particulière qui émerge et qui fait profession de penser et d'enseigner. Et donc ça, le cadre urbain est tout à fait fondamental de ce point de vue-là.
Est-ce qu'on peut dire, pour résumer, finalement, qu'on est dans une période plutôt d'essor ?
Effectivement, il y a un essor urbain. On a une croissance de population
démographique
à partir au cours du XIIe siècle est absolument considérable. Certaines villes voient leur population multipliée en un siècle par deux, par trois. Donc il y a un contexte qui est tout à fait favorable à cet essor, oui.
Antoine d'Estambert, qu'est-ce qui se transforme, dont vous avez parlé tout à l'heure, ou auquel vous avez fait allusion, qui devient université?
Alors l'université, d'abord le terme universitas, hein, c'est un terme juridique de droit romain qui est employé pour désigner une communauté jurée, c'est-à-dire unie par le serment, et qui, en tant que telle, a un statut juridique, des représentants. C'est un terme qui n'est pas réservé à l'origine au monde des écoles. Certaines villes, certaines communes se font appeler universitas. Donc c'est un terme qui n'est pas limité au milieu scolaire, mais qui progressivement devient accolé à ce milieu scolaire. Et donc l'émergence de l'université, c'est cette agrégation juridique d'une communauté d'intérêts entre maîtres et étudiants qui, jusqu'à présent, avaient des activités éparpillées dans la ville. Au XIIe siècle, on a une variété d'écoles aux statuts très différents, écoles cathédrales, écoles canoniales, des écoles, voire de statuts presque privés, reposant sur simplement l'enseignement d'un maître en particulier. Et à partir donc de cette extrême fin du XIIe siècle et du XIIIe siècle, se fédère ce réseau d'écoles sous l'égide de l'Église pour devenir donc une grande institution qu'est l'université.
À ce moment-là, donc, ces universités, telles que vous venez de les définir, dépendent directement de l'Église.
Alors, elles dépendent largement de l'Église, et ce qui fait qu'elles en dépendent, et c'est là un tournant essentiel dans la constitution de ces communautés de maîtres et d'étudiants, c'est que ils bénéficient de ce que l'on appelle le fort ecclésiastique, c'est-à-dire qu'ils relèvent uniquement de la juridiction de l'Église. Et en cela, ils sont protégés des justices laïques. Ça en fait une communauté juridiquement bien identifiée, de fait, et inévitablement des clercs. Donc ce sont des clercs, et en tant que tels, ils sont sous la juridiction de l'Église et font partie de cette institution.
Vous dites « ils sont des clercs », les maîtres ou les élèves ?
Les deux. Les deux, c'est-à-dire que à partir du moment où on est à l'université, on est protégé par ces privilèges ecclésiastiques, et à partir de ce moment-là, on est clerc. Être clerc, c'est d'abord être sous l'autorité de l'Église d'un point de vue juridictionnel.
Alors, ce qui est intéressant à souligner aussi, c'est que donc ce terme d'université désigne, comme vous l'avez dit, un groupe de personnes, une communauté, et non pas des bâtiments.
Oui, c'est la particularité notamment de l'université de Paris, qui est une université qui, au Moyen-Âge, n'a pratiquement aucun bâtiment propre. Certaines églises reçoivent un patronage, sont administrées par des fragments de l'université, mais il n'y a pas du tout
d'unité de
bâtiment.
De lieu.
Il n'y a pas de lieu.
Et alors, où sont dispensés les cours? Où est-ce qu'on enseigne?
Alors, au tout début de la période donc d'enseignement universitaire, c'est un peu partout. On loue une salle dans une taverne, des maîtres utilisent des pièces qu'ils ont réquisitionnées. On trouve également des enseignements tout au bord de la rue, et on a longtemps dit que la rue du Foire, à Paris, c'est au plein cœur du quartier donc de la faculté des arts, tenait ce nom du foin que les étudiants achetaient pour pouvoir s'y asseoir, des bottes de paille sur lesquelles il s'asseyait pour suivre
pendant les cours.
Voilà. Donc, c'est une université qui est, comme le disait Étienne Pasquier au XVIe siècle, qui est bâtie en hommes et non pas en murs. Et ça, c'est une spécificité qui, progressivement, évolue, notamment à partir du XIVe siècle, avec notamment, pour ce qui est de Paris, notamment, l'apparition des collèges qui viennent ancrer, d'un point de vue architectural, des bâtiments, cette fois dans le quartier universitaire.
Alors vous avez cité déjà quelques-unes de ces universités, mais finalement, à part peut-être Paris, les autres ne sont pas forcément dans d'énormes villes ou dans des capitales.
Oui, c'est la particularité de Paris. C'est la particularité de Paris, et c'est ce qui en fait sa dimension qui est tout à fait particulière. Paris est à la fois ville universitaire et capitale royale. Ce n'est pas le cas des autres grandes universités. Oxford est une petite bourgade qui n'a rien à voir évidemment avec Paris. Bologne est une ville qui est dans l'orbite de la papauté, qui est une ville relativement importante, mais qui n'a pas néanmoins ce prestige politique. Si l'on regarde Montpellier, c'est à peu près la même chose. Et globalement, il n'y a pas, avant la tentative de fondation d'une université à Naples par Frédéric II en 1224, de ville qui accueille à la fois véritablement un pouvoir princier, un pouvoir royal et une université. Donc c'est vraiment la spécificité de Paris.
Comment est-ce qu'on explique alors que ces villes moyennes, voire ces petites bourgades, accueillent des universités?
Alors, ce sont des contextes qui sont à chaque fois très différents. On s'est beaucoup posé la question pour Oxford, parce qu'effectivement, Oxford est à l'origine une ville d'une dimension qui est à la fois secondaire d'un point de vue religieux, qui est certes une ville qui connaît une activité commerçante, mais qui n'est pas non plus, je dirais, l'une des plus importantes du Royaume d'Angleterre à ce moment-là. C'est essentiellement, en tout cas c'est ainsi que les spécialistes d'Oxford le présentent, un élan qui est donné par la bourgeoisie locale. Par la bourgeoisie locale, par des réseaux, réseaux personnels, de circulation, et on voit que cette bourgeoisie d'Oxford n'hésite pas à envoyer ses enfants dans les écoles parisiennes, et l'université d'Oxford, de ce point de vue-là, est largement le produit de la circulation de ces élites des deux côtés de la Manche. Pour ce qui est de Bologne, là, l'influence pontificale est tout à fait importante, même si Bologne est néanmoins une de ces grandes villes du nord de l'Italie qui compte plusieurs dizaines de milliers d'habitants et qui fait qu'on a là aussi des infrastructures qui permettent d'accueillir des centaines d'étudiants.
Merci beaucoup Antoine d'Estemberg. On se retrouve demain.
Merci.